magazine des Nations Unies.
Vous êtes sur la radio de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies et tout de suite les titres. D'abord, ce méga concert prévu aujourd'hui à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec la participation d'artistes nationaux et internationaux. Une manifestation produite par la fondation Peace One Day avec le soutien de la MONUSCO. C'est dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la paix. L'événement sera retransmis en direct sur Radio Okapi. Dans cette édition, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU explique l'intérêt de ce concert. C'est notre actualité de la semaine. Vers une stratégie nationale pour développer la production fruitière en République démocratique du Congo, c'est l'aboutissement d'un projet du gouvernement congolais conçu et exécuté avec l'appui de la FAO. Dans ce magazine, un expert consultant au bureau RDC de cette agence va parler de ce secteur. Enfin, en Ituri, la MONUSCO propose d'accueillir des miliciens de Cobra Matata, candidats au désarmement volontaire, plus précisément dans la collectivité de Walendu Bindi, une option prise avec le consentement des autorités coutumières locales. Les détails dans quelques minutes.
Pour mon temps libre, je le gère comme je peux, c'est-à-dire d'abord en dehors du travail qui me prend beaucoup de temps, je m'occupe de ma petite famille. Je peux entre ça faire les autres hobbies que j'aime, c'est-à-dire de la lecture, de la recherche sur internet, du shopping, quelques virées entre amis. Mais bon, le gros de mon temps, je le garde pour ma famille.
De qui s'agit-il? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Tels sont les grands titres de ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Ce 21 septembre, le monde célèbre la journée internationale de la paix. Le thème retenu cette année est le droit des peuples à la paix, un thème évidemment très significatif pour les peuples de l'Est de la RDC. Et la MONUSCO commémore cette journée avec comme activité principale l'organisation d'un concert, un grand concert. Des artistes congolais et étrangers sont réunis sous la production de la fondation Peace One Day. Mercredi dernier, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint en charge des opérations dans l'Est de la RDC, a expliqué l'intérêt de ce méga concert. Ses propos sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Je crois qu'il est quand même extrêmement important que la société civile de Goma, les habitants de Goma et au-delà la population de la RDC se rendent compte que ce concert qui sera organisé à Goma, qui aura une couverture planétaire. Le monde entier pourra suivre ce concert qui va se dérouler à Goma. C'est une opportunité, c'est une occasion unique pour l'ensemble du monde entier de voir autre chose à Goma que les images de souffrance, de guerre et de sablés. Je pense que c'est un signal très fort vers le retour de la paix, vers le retour de la stabilité, pour susciter l'intérêt des investisseurs, des bailleurs de fonds et de l'ensemble du monde pour les populations de Goma. Alors, s'il vous plaît, laissons pour une fois les controverses, les dissensions, pour ne voir que l'impact positif que cela peut avoir sur les populations, sur cette région qui a des potentialités fabuleuses, mais qui jusqu'à présent n'a connu que l'instabilité, la guerre et la souffrance.
Notez qu'en dehors de l'événement de Goma, d'autres manifestations sont également prévues à travers la RDC. À Kinshasa, notamment, la MONUSCO va mobiliser la population pour une marche organisée avec le concours du cadre de concertation de la société civile du Congo. Cette marche devrait partir de trois axes, la gare centrale, la place Kitamo Magasin et le palais du peuple. Le point de chute sera le rond-point entre les ministères des Affaires étrangères et celui de la justice.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Quel avenir pour l'arboriculture fruitière en RDC? Mercredi dernier, les experts des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, de la FAO, ainsi que des chercheurs et investisseurs du secteur ont validé à Kinshasa la stratégie nationale ainsi que le plan de développement de l'arboriculture en RDC. Nous avons reçu pour vous M. Laurent Kikeba. Il est consultant et chef de projet de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, le FAO. Il fait un éclairage sur ce secteur agricole, l'arboriculture ainsi que sur les stratégies préconisées pour son développement. Laurent Kikeba répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Laurent Kikeba, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement congolais et la FAO ont organisé mercredi dernier une séance d'évaluation de la stratégie du plan de développement de l'arboriculture fruitière en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'arboriculture fruitière?
L'arboriculture fruitière, c'est toutes les activités de production végétale qui concernent les arbres qui produisent le fruit. Par exemple, la culture de l'avocatier, la culture du manguier, la culture du safoutier et du mangoustanier, tout cela rentre dans l'arboriculture fruitière.
Vous n'avez pas cité la banane ou même l'ananas?
La banane et l'ananas, ou le bananier et l'ananas, ils produisent des fruits, mais ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des ligneux comme nous les appelons à ce titre-là, ils ne font pas partie de l'arboriculture fruitière. Le bananier, c'est une grande herbe, ça va vous étonner, c'est une grande herbe. Le bananier, ce n'est pas un arbre, mais c'est une herbe.
Oui, vous avez tout à l'heure, monsieur Laurent, parlé de safoutier, d'avocatier. Alors, justement, quel est l'état des lieux de tous ces produits en République démocratique du Congo?
Je crois que s'il faut parler du secteur arboriculture fruitière, d'abord il faudrait dire qu'il y a un grand problème qui se pose dans le secteur. La production que nous connaissons dans le pays, c'est essentiellement une production qui est faite pratiquement au niveau des petites plantations familiales. On dirait même pas des petites plantations familiales, mais ce sont des plantations, ce qu'on appelle des plantations de cases. C'est-à-dire derrière la maison, vous avez 3, 4, 5 arbres fruitiers. C'est cette somme-là qui fait la production de fruits dans le pays.
Oui, monsieur Laurent, nous qui avons étudié dans des écoles de prêtres, il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers, par exemple l'avocatier, tout ça. Cela n'entre pas en ligne de compte?
J'ai dit, c'est d'abord une culture de cases, mais ensuite il y a effectivement les confessions religieuses qui ont des vergers. Mais il y a quelques rares particuliers, par exemple dans la région de Kinshasa ici. Il y a quelques fermes quand même, mais c'est très peu de choses. Au fait, la grande production, c'est des cultures de cases.
Donc, il n'y en a pas assez en République démocratique du Congo. Il faut vraiment en produire beaucoup.
Des plantations structurées à vocation commerciale, non.
Alors, parlons de ce projet même. Quels ont été les grands axes de ce projet?
En termes de produits, ce projet a visé trois produits essentiels. Le premier produit, c'était au fait doter le pays d'une stratégie et d'un plan de développement de ce sous-secteur qui est la boquille de fitière. Parce que le secteur pratiquement fonctionnait de n'importe quelle manière. Ça, c'est une première chose. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà obtenu une stratégie qui a été validée. Donc, ça, c'est le premier produit, si vous voulez bien, du projet. Le deuxième produit, c'est par rapport à la recherche, développement concernant les secteurs. Les variétés qui sont cultivées, la plupart de ces plantations qui existent dans le pays, ce sont des variétés qui datent des années 50. Ce sont des variétés qui sont dégénérées et qui ne donnent pas un bon rendement.
Lorsque vous parlez de variétés, vous pouvez donner quelques exemples ou bien c'est seulement le produit que vous venez de citer tout à l'heure?
Je peux par exemple vous donner l'exemple des orangers, les pamplemoussiers, les mandariniers. Parmi les fruits, on le regroupe dans un sous-groupe qu'on appelle les agrumes. Ok? Et ces genres de plantes, en principe, quand on les reproduit, on fait ce qu'on appelle le greffage. Le greffage, c'est quoi? Vous avez une première plante que vous produisez par graine, ça vous donne une plante, et quand ça croît à un certain niveau, on sectionne, on va prendre une branche qu'on va coller à cette première partie-là qui se trouve sous terre. Alors, le problème, c'est que les porte-greffes qui étaient utilisées jusque-là dans le pays, ce sont des porte-greffes qui datent des années 50. Donc, ce sont des porte-greffes dégénérées qui pratiquement sont sujets aux maladies. C'est ainsi que quelqu'un peut mettre en place une plantation. Généralement, quand vous mettez, par exemple, une plantation, je cite par exemple, de manguier, mais vous pouvez l'exploiter économiquement même sur une cinquantaine d'années. Mais quand vous n'avez pas choisi de bonnes variétés, vous pouvez perdre votre plantation au bout de 10 ans. Et pourtant, c'est un investissement, au fait, durable que vous faites. C'est la même chose, par exemple, pour les agrumes, c'est la même chose pour les orangers.
Les plantations sont devenues désuètes, mais alors, il y a une autre stratégie dans le plan?
Justement, la stratégie, c'est notamment une stratégie d'introduction de nouvelles variétés, de mettre en place de nouvelles variétés. Le deuxième axe du projet, c'était la relance de la recherche-développement. Mais, au fait, la recherche agronomique aussi connaît tous les problèmes qu'il connaît. Dans le cas d'espèces, l'INERA, qui est censé être la structure, a des problèmes très sérieux. Pour votre information, par exemple, la collection des agrumes, mandariniers, orangers, pamplemoussiers, a été détruite au niveau du centre de recherche de Mvoisi où se trouve ce programme-là. Tout simplement parce que ça a été sérieusement attaqué par les maladies et des ravageurs. On ne pouvait plus continuer à produire du matériel et à les diffuser. Oui. Donc il fallait refaire ça. Et c'est ainsi que par rapport à cette question-là, le projet a notamment appuyé le gouvernement congolais dans la mise en place de nouvelles collections. C'est-à-dire qu'on a introduit de nouvelles variétés de l'extérieur, c'était spécialement d'Afrique du Sud pour ce qui concerne les agrumes. Pour ce qui concerne les manguiers, nous avons été appuyés par le CIRAD, on a importé des variétés de manguiers de Guadeloupe, mais on a trouvé quand même sur place aussi certains opérateurs. C'est le cas de saluer par exemple le travail d'un certain monsieur Land le Sarakassa, qui lui était, j'allais dire, à l'avance du temps, avait déjà importé des variétés qui tiennent et que nous avons dû prélever pour mettre en place la collection. On a mis en place deux collections, une collection à Kinshasa ici à Kimwenza, une autre collection végétale au niveau du Bas-Congo, à Sever Kisantu. L'idée c'est quoi? C'est que à moyen terme et à long terme, nous ne puissions plus continuer à importer soit les semences de porte-greffe de l'extérieur, soit les greffons pour faire les greffages, mais que nous puissions nous-mêmes produire des plants de qualité au niveau du pays. Donc ça, c'est une stratégie, si vous voulez bien, à moyen et à long terme. Mais la stratégie à court terme, c'est l'importation des variétés de porte-greffe et l'importation de greffons pour pouvoir produire des plants de qualité. En fait, c'est le deuxième produit que le projet a poursuivi. Il n'y a pas que ça. Au niveau de ce deuxième produit, nous avons appuyé aussi deux fermes. Parce qu'en fait, le projet, c'est un projet pilote. Et comme c'est un projet pilote, il devait vérifier des idées. Donc, essayer des choses qui devraient être implémentées grandeur nature. Parce que le projet n'a visé que Kinshasa et le Bas-Congo pour essayer des choses. Une fois ces choses-là donnent de bons résultats, on allait les implémenter dans le reste de la République. Le troisième résultat, c'était celui qui a concerné les renforcements des capacités. Donner des formations au niveau des enseignants des écoles agricoles, donner des formations au niveau des enseignants de l'université, des formations pratiques s'il vous plaît, parce que les formations n'en donnent, mais on s'est rendu compte que les agronomes qui sont formés ont un problème au niveau pratique. Un jeune homme qui finit les humanités agricoles a du mal à vous faire un greffage, a du mal à vous faire un marcottage. Donc on a organisé des formations pratiques à ce sujet.
Alors, quelle est l'implication de la FAO dans la mise en œuvre de cette stratégie qui est une stratégie du gouvernement, il faut le rappeler. En termes financiers, par exemple, et en termes techniques, en termes d'assistance.
La FAO, c'est pas un bailleur de fonds. En fait, la FAO, c'est un accompagnateur technique des gouvernements. La RDC, étant membre de la FAO, a le droit de se faire accompagner par la FAO par rapport aux différents projets qu'il a ou par rapport au fait de contribuer à la sécurité alimentaire de sa population. Et à ce sujet, la FAO a élaboré avec le gouvernement congolais un cadre de programmation de pays dans lequel sont repris, au fait, ce que le gouvernement congolais a voulu faire avec la FAO. La FAO dit, voilà nos points forts, c'est ceci, c'est cela. C'est essentiellement sur le plan technique. Maintenant, sur le plan de la mobilisation des ressources. Effectivement, la FAO peut, à côté du gouvernement congolais, faire un plaidoyer au niveau notamment des partenaires financiers aussi pour mobiliser les ressources. Ça, la FAO peut le faire. Mais c'est d'abord du devoir du gouvernement congolais.
Monsieur Laurent, merci.
Par le Nord Kivu que nous ouvrons cette page de nouvelles. En bref, un pacte social territorial régit désormais la cohabitation intercommunautaire dans cette province. Un pacte signé au terme du troisième forum provincial organisé du 9 au 10 septembre dernier à Sake entre les délégués des communautés locales, les concessionnaires, les chefs coutumiers ainsi que les représentants des services publics de l'État, de l'agriculture, de l'environnement, des affaires foncières, de la justice et de l'administration territoriale. Il s'agit de l'aboutissement d'un dialogue engagé entre ces différentes parties dans le cadre d'un projet conduit par la FAO avec l'appui conjoint de l'UN Habitat et du PNUD. À Kisangani, en province orientale, la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO annonce la fourniture par le Comité international de la Croix-Rouge d'une centaine de comprimés de chlore pour la purification d'eau en faveur des prisonniers. La même section de l'administration pénitentiaire a organisé des séances de travail avec les superviseurs et responsables de services de santé de plusieurs maisons carcérales à travers le pays, dont celle de Ndolo et Makala à Kinshasa, Bukavu dans le sud Kivu et Kasapa au Katanga. Objectif, transmettre de nouvelles aptitudes sur le maintien d'une bonne hygiène. Enfin, du matériel médico-sanitaire remis à la province du Katanga le 15 septembre 2014 par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF. Cela dans le cadre du projet équipement des structures sanitaires PESS. Ce matériel a été acheté sur fonds propres du gouvernement congolais. Le rôle de l'UNICEF a été d'assurer l'organisation de la chaîne d'approvisionnement, de la commande à la distribution aux bénéficiaires. Au total, 7 hôpitaux généraux, dont l'hôpital général de référence de Caravia à Lubumbashi, ainsi que 30 centres de santé de la province seront servis.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a nommé deux ambassadeurs de la jeunesse, Madame Heidi et Monsieur Jean-Patrick Mosengo Okwei. Quel est le rôle de ces ambassadeurs de la jeunesse? Suivez ce bref entretien que Jean-Patrick Mosengo a accordé à Honoré Missenga Kalala.
Jean-Patrick Mosengo Okwei, bonjour.
Bonjour Honoré.
Jean-Patrick, le chef de la mission, vient de vous nommer ambassadeur de la jeunesse. Qu'est-ce qu'un ambassadeur de la jeunesse pour commencer?
Un ambassadeur de la jeunesse est toute personne qui s'implique dans la conscientisation des jeunes afin de mettre en place des politiques pour les aider à s'impliquer davantage dans des processus de prise des décisions politiques, économiques et sociales.
Alors, y a-t-il vraiment une grande différence entre un ambassadeur de la paix et un ambassadeur de la jeunesse?
Je dirais non, en ce sens que les deux ne s'opposent pas, mais peuvent plutôt aller ensemble. Qui dans ce monde d'aujourd'hui peut être plus porteur de messages de paix que la jeunesse?
Alors, Jean-Patrick, pourquoi cette nomination intervient-elle aujourd'hui alors que la MONUSCO est en RDC depuis plusieurs années? Que cache ou que signifie ce geste de Martin Kobler?
Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Il n'y a aucun agenda caché. Considérons plutôt que cette décision qui fait honneur à la jeunesse congolaise est arrivée lorsque toutes les conditions étaient réunies. Et c'est tout à l'honneur de M. Kobler que nous remercions au passage d'avoir fait confiance en notre modeste personne.
Dans la lettre de votre nomination, Martin Kobler écrit, je cite, « Heidi et Jean-Patrick serviront de lien avec la jeunesse congolaise. Expliquez-nous un peu brièvement le rôle que vous allez jouer. »
Oui, Miss Heidi et moi avons pour rôle de sensibiliser la jeunesse à intégrer les enjeux de développement durable, redéfinir les sens de la prospérité, prioriser l'échange des cultures afin qu'elle puisse non seulement influencer les décisions clés, mais également promouvoir une économie encore plus productive.
Le 19 septembre prochain, c'est dans deux jours, les jeunes du monde entier vont échanger par vidéoconférence avec un modérateur exceptionnel, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. Vous y serez, j'espère. Quel sera le message de la jeunesse congolaise à la jeunesse du monde et aux Nations Unies?
Honoré, il y a tellement de messages à dire, il y a tellement. Mais je crois que je retiendrai celui de Mme Kosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, qui disait « Investir judicieusement dans la jeunesse et avec les femmes peut être un atout déterminant pour le développement social, économique et culturel de l'Afrique. »
Dernière question, Jean-Patrick, vous venez d'être nommé ambassadeur de la jeunesse, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Ou qu'est-ce que vous faites en même temps?
En même temps, je suis toujours au sein de l'Organisation des Nations Unies. Je travaille spécialement à la FAO comme assistant au programme, où j'essaie de manager les différents projets et collecter les informations sur le développement de l'agriculture ou activités connexes dans le pays.
Et votre dernier mot?
Je dirais que je perçois cette nomination comme un défi. Et s'il faut mouiller le maillot pour le relever, vous pouvez être sûr que Heidi et moi nous le relèverons.
Jean-Patrick Mosengo Okwei, merci beaucoup.
Je vous remercie, Honoré.
La nouvelle des provinces de cette édition nous emmène en Ituri où la MONUSCO est disposée à accueillir les miliciens FRPI qui accepteraient de déposer les armes. Une option prise mercredi dernier entre le directeur local de la mission onusienne et les autorités coutumières de la collectivité de Walendu-Bindi. Un dispositif d'accueil est prévu au campement des soldats des Nations Unies à Aveba. Le directeur de la MONUSCO en Ituri, Mohand Ladjouzi, explique ici le sens de cette démarche. Il est au micro de notre confrère Jean-Claude Loki.
Ce que la MONUSCO cherche pour que ces personnes puissent se rendre dans la dignité, dans le respect de leurs droits, mais qu'ils puissent cesser d'être des ennemis de leur propre population et de leur pays. La population, dans son ensemble, voudrait, une fois pour toutes, retrouver la paix. Donc je suis plutôt optimiste de voir, la détermination de la population, donc à appuyer les efforts du gouvernement et aussi de la MONUSCO à en finir avec ce problème. Continuer à échanger avec les autorités locales, évidemment, pour voir dans quelle mesure nous pouvons lancer immédiatement un projet de DDA qui serait d'envergure pour accueillir ces miliciens.
Rappelons que les FARDC et la MONUSCO envisagent depuis 3 semaines environ de lancer des offensives de grande envergure contre les positions du groupe armé de Cobra Matata dans la chefferie de Walindubindi. Donc une chance est encore accordée à ceux des miliciens qui le voudraient de se rendre pacifiquement.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question du jour est posée au porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Bass. Elle porte sur l'opération Soukola 1. Suivez la question et la réponse.
Le Red Mandala Africa Télévision, au porte-parole militaire, je vous ai entendu parler des opérations, mais vous n'avez pas évoqué l'opération Soukola 1. Où en sommes-nous? Est-ce que vous avez arrêté ou les opérations se poursuivent au Nord Kivu?
Merci pour votre question. L'opération Soukola 1, comme vous le savez, qui a engrangé des résultats très satisfaisants, se poursuit normalement. Les FRDC ont réussi à capturer tous les bastions jadis occupés par le groupe ADF dans cette région du territoire de Beni. Et aujourd'hui, la MONUSCO poursuit son soutien à ces opérations-là, son soutien logistique, son soutien tactique, son soutien médical, son soutien en termes d'acquisition de renseignements pour permettre aux FRDC de progresser dans cette zone-là. Mais n'ignorez pas non plus que dans cette zone-là, nous avons affaire à de nombreux otages qui, fort heureusement, ont fait preuve d'un courage quand même très important, parce que face à la pression militaire, beaucoup d'otages ont réussi à sortir des bois, et il faut aussi louer l'effort consenti par les soldats FRDC qui portent à dos d'homme tous ces otages en vue de les mettre en sécurité, et c'est à ce titre que la MONUSCO a établi une base à partir du pont de Similiki, justement pour prendre en compte tous ces otages malades, affaiblis, et éventuellement les transférer par voie aérienne vers des structures hospitalières appropriées. Les opérations se poursuivent avec détermination, et nous pensons que très bientôt nous aurons des résultats beaucoup plus favorables pour que la paix revienne dans cette région.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Marie-Noël Michika Kandolo, née Kalamba. Je suis mariée, mère d'une enfant. J'ai fait des humanités littéraires, dont option latin philo. J'ai terminé en 1999. Je suis détentrice d'une licence en droit économique et social de l'Université protestante au Congo depuis 2004. Je suis à l'UNESCO depuis 2006. Dans mes tâches quotidiennes, j'assiste les spécialistes de programme. Quand je parle des spécialistes de programme, c'est au pluriel. Parce que l'UNESCO a 5 programmes, notamment l'éducation, les sciences, la culture, communication et information. Et donc j'assiste les spécialistes de programme dans la recherche, la localisation, la compilation, l'examen et la mise des informations et des données utilisées dans l'élaboration des documents, les plans de travail, des budgets. Je mets à jour les plans de travail, les données budgétaires validées dans le système informatique conçu à cet effet en s'assurant de leur exactitude et cohérence. J'appuie à la préparation des rapports dans le système informatisé et dans les exercices de mise à jour des données budgétaires régulières et ad hoc. J'assiste les spécialistes dans la préparation des rapports statistiques ou prévisionnels afin que le superviseur et les responsables puissent les utiliser ou les contrôler. Je prépare sur une base trimestrielle les plannings des activités suivant le format standard développé au sein du bureau et veille à sa mise à jour permanente. Je pourvois de la documentation informative sur les procédures administratives à l'usage des spécialistes de programme et m'assure de la stricte application par ceux-ci des règles et procédures administratives dans le cadre de la bonne exécution des différents programmes. J'établis les différents contrats, partenariats, les contrats de service, les consultations individuelles et assure le suivi de leur exécution, notamment sur les échéances convenues et la conformité des livrables, en d'autres mots, le respect des clauses des différents contrats. Je coordonne la préparation des événements, des réunions, ateliers, séminaires, retraites, dans les aspects administratifs et logistiques, à savoir la préparation des dossiers de voyage pour les participants, l'organisation des itinéraires, l'organisation de l'agenda, l'élaboration des budgets pour les prises en charge faites directement par l'UNESCO, ainsi que le suivi du déroulement sur terrain des différentes activités. En dehors de tout ça, il y a la réception, l'analyse, les tri, la distribution des courriers reçus, les différents documents et rapports qui concernent directement la mise en œuvre des programmes. Je prépare pour l'information du bureau une fiche synthétique sur une base mensuelle de l'ensemble des missions effectuées par le système et les consultants sous contrat. Voilà un peu, en gros, ce que je fais quotidiennement à l'UNESCO. Mon parcours professionnel avant cette agence UNESCO n'est pas énorme. J'ai terminé en 2004, je suis passée par deux stages professionnels au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et aussi en tant qu'assistante juridique dans une entreprise privée de la place. Pour mon temps libre, je le gère comme je peux, c'est-à-dire d'abord en dehors du travail qui me prend beaucoup de temps, je m'occupe de ma petite famille. Je peux entre ça faire des autres hobbies que j'aime, c'est-à-dire de la lecture, de la recherche sur internet, du shopping, quelques virées entre amis, mais bon, le gros de mon temps, je le garde pour ma famille. J'aime bien le sport, c'est vrai, mais j'ai une préférence pour le tennis et la natation. Pour la musique, j'aime particulièrement la musique congolaise. Ça veut dire toutes les générations, toutes tendances confondues. Vous savez que ça, c'est une richesse de notre pays, donc j'aime bien cette musique-là. Et en plus de celle-là, on rajoute la musique étrangère, du zouk, du reggae, et tout ce que vous voulez. Plan nourriture, je ne suis pas très compliquée sur ce plan-là. Je mange tout ce qui se présente, mais je suis friande de la bonne cuisine. Comme tout le monde, les projets d'avenir, on en a. Aussi minimes soient-ils, c'est des projets. Et moi, personnellement, mes projets s'inscrivent pas forcément après l'UNESCO, mais dès à présent déjà. Pour le moment, j'aimerais bien parfaire d'autres études, j'aimerais bien rajouter à ce que j'ai un autre diplôme, c'est-à-dire faire un troisième cycle. Et parce que je suis déjà dans le système des Nations Unies, je vise une carrière internationale au sein des Nations Unies. Mais bon, laissez-moi quand même vous dire que jusque-là, je ne sais pas très bien comment je m'y prendrai pour la carrière internationale, parce que quand on se renseigne, on trouve que les circuits sont tellement verrouillés, mais je finirai par accéder. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Plusieurs journées mondiales dans votre agenda pour la semaine qui commence. D'abord le 22 septembre, c'est la journée mondiale sans voiture. Le 23 septembre, la journée mondiale du refus de l'échec scolaire. Le 26 septembre, au moins 3 journées seront célébrées. La journée mondiale de la contraception, la journée mondiale du cœur et la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Cette dernière journée sera célébrée pour la première fois. Votre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Julien Nyamouni était à la supervision. Honoré Messenga Kalala à la coordination et au reportage. Lydie Bettina vous l'a présenté avec plaisir et du donner Nyangasawa Nyangasa la mise en onde. L'émission est à réécouter sur notre site internet radioocapi.net. Merci de votre fidélité à la Radio de la Paix et à dimanche prochain.